Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 187e numéro de nos chemins d'histoire, le 28e de la 5e saison, et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Jennifer Tamas. Bonjour à vous.
Bonjour.
Jennifer Tamas, vous êtes Associate Professor à Rutgers University dans le New Jersey, et vous venez de faire paraître chez la Martinière Jeunesse dans la collection Alt, faut-il en finir avec les contes de fées ? Votre livre, initialement publié en 2023, Au nom des femmes, libérer nos classiques du regard masculin, reparaît au seuil dans la collection Essai avec une postface inédite. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revisitons quelques classiques et autres contes de fées des XVIIe et XVIIIe siècles et traquons l'expression du féminin sous le regard masculin et tendons l'oreille vers le bruissement de voix récalcitrantes. Alors peut-être revenons au début de notre conversation, Jennifer Tamas, sur le projet du livre Au nom des femmes qui reparaît. Si on essaye de faire la genèse de ce projet, parce qu'il y a chez vous très souvent un dialogue avec l'époque contemporaine, l'époque dans laquelle vous vivez, est-ce qu'aux sources du livre, il y a l'affaire Weinstein, la vague MeToo, ça a compté dans votre, dans la relecture que vous avez opéré de textes classiques, de textes du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est vraiment un moment décisif où se sont cristallisées un certain nombre de choses?
Tout à fait. En fait, il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre. Donc effectivement, il y a eu la vague MeToo, suivie ensuite aux États-Unis de Black Lives Matter. Et puis, il y a aussi eu des paritions très importantes, comme le livre de Vanessa Springora, Manon Garcia, Camille Kouchner. Il y a aussi eu un fait personnel, qui est que j'ai eu la titularisation. Donc, aux États-Unis, on est pris à l'essai pendant 7 ans. Et du coup, il faut produire, enseigner. Et puis, quand on a la titularisation, ça donne une forme de liberté. Donc, je me suis autorisée, grâce à tous ces facteurs, à écrire un livre que je couvais depuis longtemps, en fait. La volonté d'expliquer les textes que j'aimais tellement autrement, me sentir autorisée, si vous voulez, à reprendre des textes canoniques et des textes qui l'étaient moins, sous l'angle du consentement et notamment du refus de consentir, pour montrer par rapport à ce qui était dit à Miton que on disait que la parole s'était libérée, qu'on entendait les femmes, mais en fait, c'était montrer que les femmes avaient toujours résisté, même quand elles étaient oppressées, même quand elles n'avaient pas le droit de vote, même quand elles n'avaient pas les moyens contraceptifs actuels, elles ont toujours dit non. Et en fait, ces refus avaient été invisibilisés parce qu'en fait, c'est une réflexion que j'avais eue aux États-Unis, How to do things with words, avec tous les linguistes qui s'intéressent au pouvoir de la parole. En fait, quand un homme dit non, c'est pas la même chose que quand une femme dit non. Donc, est-ce que c'est le pouvoir des mots ou est-ce que c'est le pouvoir des institutions? Est-ce que c'est le pouvoir du statut? En fait, ça me permettait de repenser tout ça et de tenter de nouer un dialogue entre la France et les États-Unis, vu de mon petit côté de prof. Voilà, c'est ça que j'ai essayé de faire.
Par rapport à vos précédents travaux, votre thèse, il y avait une ligne de continuité ou là, une espèce de césure, enfin?
Alors, à la base, je suis racinienne, donc moi, j'avais travaillé sur le silence chez Racine et l'indicible et le silence trahi. Donc, je pense qu'en fait, il y avait toute une continuité. Puis ensuite, quand je suis allée aux États-Unis, ce qui m'intéressait, c'était la notion de déclaration comme speech act. Qu'est-ce qui fait que certaines déclarations fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas? Donc, c'était, sortir du silence, sortir de la silenciation, de l'invisibilisation aussi. Donc, il y a en fait une continuité sur le pouvoir des institutions, le pouvoir de dire non et puis de trouver une forme de lumière par rapport à ce qui est énoncé. Et donc, chez Racine, je m'intéressais à dire et ne pas dire. Comment ça se fait que certaines paroles sont occultées, l'inceste dans Phèdre, des paroles qui sont taboues, la judéité chez Esther. Donc, comment briser le silence, en fait? Donc, il y a une forme de continuité, en réalité.
Alors, si on regarde un petit peu votre projet dans au nom des femmes, N-O-N, bien sûr, vous dites, il s'agit de conduire une forme d'archéologie des refus usurpés, d'aller au-delà ou plutôt peut-être en deçà de l'effacement des femmes. Vous dites à un moment, c'est le refus des femmes qui a été lui-même refusé, passé sous silence, effacé. Vous dites plus loin, l'histoire que je veux retracer est celle des refus oubliés, effacés, incompris ou irrecevables. Donc c'est cette histoire aussi de double effacement à la fois des femmes, de leur parole, de leur voix, et aussi du refus des femmes.
C'est ça, et il y a plusieurs épaisseurs en fait. C'est comme dans le silence chez Racine, ce que j'essayais de montrer, c'est que le silence, c'est pas forcément l'absence de mots. Que parfois on peut parler, que c'est du bruit, mais que ça répond pas, que c'est une stratégie d'évitement, et qu'il y a plusieurs façons de faire silence. Et en fait, pour le refus des femmes, il y a plusieurs façons de leur refuser leur refus, et même leur parole. Donc d'une part, l'invisibilisation de ce qu'elles ont écrit, certains contes de fées, certaines nouvelles, certains romans qui ne sont pas enseignés, qui sont effacés du canon et des anthologies. Mais il y a aussi le fait que quand une femme dit non, on lui explique que c'est pas vraiment non qu'elle a voulu dire, qu'en fait le non codifie le oui, voire codifie l'orgasme. Et là, je vous renvoie à toute la querelle qu'il y a eu sur l'Oaristis quand Chénier était au programme de l'agrégation et qu'on expliquait aux jeunes agrégatives qu'en fait elle n'avait rien compris au poème quand elle voyait un viol et qu'il y avait une espèce de fossé entre les sachants, c'est-à-dire les professeurs, et celles qui recevaient le savoir, qui ignoraient, c'est-à-dire les étudiantes. Et donc, par exemple, typiquement, moi je trouvais qu'il y avait des refus qui avaient été complètement invisibilisés, c'est-à-dire des viols, des incestes, ou alors des simples refus, comme dans La Princesse de Clèves, quand Nemours revient à la charge, tout à la fin du roman, plusieurs fois, qu'il ne comprend pas le nom, ou le viol de Cécile dans Les Liaisons dangereuses. Donc en fait, c'était l'idée de revisiter cette littérature avec le prisme de ce que moi j'en avais compris, une parole qui n'était pas forcément autorisée par les institutions et illégitime par ce qu'elle était devenue dans les films. Par exemple, si vous regardez la traduction des Liaisons dangereuses au cinéma ou la traduction de La Belle et la Bête par toutes les adaptations, en fait, il y a un profond écart entre ce que disent les textes et ce que montrent les images.
Justement, ce 17e, ce 18e siècle constitue un excellent terrain pour observer ces refus des femmes. Parce que les femmes se singularisent aussi à cette époque-là par l'écriture.
C'est ça. Il y a toujours eu des femmes qui ont écrit. En fait, Sappho écrivait. Enfin, toute son inventivité dans la forme poétique a été effacée au profit de la figure de la lesbienne, par exemple. Donc, c'est une façon de délégitimer ses apports théoriques. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est pas de dire « Ah, oh, tout à coup, les femmes écrivent au XVIIe », il y a vraiment, voilà, Marguerite de Navarre, enfin, Christine de Pizan, il y a toujours eu des femmes qui ont écrit, sauf qu'au XVIIe, il y a quelque chose de singulier, c'est que, par exemple, ce sont les femmes qui ont la plus grosse production romanesque, Nathalie Grand en parle, grosse production de contes de fées, donc c'est par les marges et aussi par les salons qu'elles gagnent une forme de visibilité, de présence, qu'elles réforment les mœurs et le goût à la cour. Donc on sait combien les femmes ont eu d'importance dans le goût et la politique culturelle de Louis XIV. Mais c'est aussi structurellement dans la société du XVIIe qui se passe quelque chose de très intéressant, puisque vont entrer en contradiction, si vous voulez, la pratique nobiliaire, des alliances aristocratiques. En gros, on va dire, on va marier les enfants pour produire de la richesse, pour favoriser les intérêts, etc. Et ça va entrer en contradiction avec, si vous voulez, l'influence de l'Église qui de plus en plus insiste pour dire mais il faut favoriser le consentement des époux parce que cela permet de se choisir, de s'aimer, de trouver une fidélité en Dieu. Et si vous voulez, ces logiques-là vont s'affronter, entrer en tension et elles vont nourrir, si vous voulez, les intrigues, que ce soit les comédies de Molière, on voit très bien comment les pères s'opposent à leurs filles, la tragédie, mais aussi les nouvelles, les romans, etc. Donc c'est vraiment, moi ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est comment tout à coup, c'est toute une société qui va penser et déplier cette notion de consentement, pas seulement les autrices, mais aussi les auteurs, et à travers plusieurs genres littéraires.
Évidemment, la Révolution française, le 19e siècle aussi, ont participé à cet oubli des femmes et du refus des femmes. Le 19e siècle a fait émerger une certaine littérature classique en canonisant un héritage culturel masculin, ainsi que l'œuvre de quelques femmes qu'on a choisies par des hommes, hein, Madame de Sévigné, par exemple. Et il faut bien faire toute cette archéologie-là, Jennifer Tamas, pour mieux retrouver ces textes et leur singularité d'une certaine manière.
Oui, et je pense qu'en fait, ce qui a beaucoup gêné, et pourquoi en fait la Révolution française a eu un rôle très important, mais même un peu avant, on pense à Rousseau et son rapport à la galanterie, je pense que le fait que les revendications des femmes, c'est-à-dire le refus d'être violées, les abus, le refus du mariage, etc., venaient de l'aristocratie, en fait. Il y a beaucoup de femmes aristocrates qui ont pensé et déplié ces notions. Et du coup, en voulant abolir les privilèges, en voulant abolir l'aristocratie, on a perdu un peu ces femmes et ces discours. Et c'est ça qui, peut-être aussi, a rendu inaudible certaines revendications.
Dans ses origines d'un oubli, évidemment, le rôle du cinéma, on l'a dit tout à l'heure, est vraiment capital. Et vous revenez à plusieurs reprises dans votre livre sur toute l'industrie Disney, hein, qui a, d'une certaine manière, fait voir les choses parfois très loin de ce que dégagent en fait les textes des XVIIe et XVIIIe siècles. Vous insistez sur le male gaze, hein, revenant sur les travaux de Laura Mulvey. Les contes sont racontés selon un point de vue masculin. Les femmes passives apparaissent comme du côté du bien, les femmes agissantes du côté du mal. Enfin voilà, des catégories simplistes qui se font. Et ça passe beaucoup par l'industrie du cinéma. Là. C'est frappant. Hein. Et notamment les productions Disney.
C'est vrai que moi, j'ai vraiment grandi avec la culture Disney, comme beaucoup de jeunes filles et même de jeunes garçons. Et même aujourd'hui que Disney se réforme, qu'on pense à des nouveaux scripts, par exemple, je pense à Maleficent, un Disney qui repense un peu la question de la Belle au bois dormant de manière totalement différente. Finalement, je m'aperçois en vivant aux États-Unis que les anciens Disney ont quand même beaucoup de pouvoir encore sur l'imaginaire des enfants. Je ne sais pas si c'est à cause de Disney+, la chaîne. Par exemple, l'année dernière, à Philadelphie, mais ensuite à New York, a circulé une très grande exposition Disney, avec vraiment toute une mise en perspective de l'origine de Disney à nos jours. Parce que je pense que Disney a un pouvoir d'enchantement qui vient de la beauté des images, des dessins, de la musique qui est choisie, qui est merveilleuse. Je pense à Tchaïkovski, par exemple, pour La Belle au bois dormant. D'une forme de féerie marketisée. Quand on pense au château de La Belle au bois dormant, qui est devenu presque le logo de Disney, et puis on peut aller dans le château si vous allez à Disneyland, en Californie ou même à Paris. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Disney a repris certains motifs, essentiellement chez les Grimm, chez Perrault, chez Andersen, mais parfois aussi quelques motifs chez les conteuses, mais pour vraiment changer les scripts et insister sur le pouvoir des princes et la passivité des femmes.
Participe aussi à cet effacement ou cette invisibilisation les femmes elles-mêmes. Alors ça, c'est un paradoxe, hein, sur lequel vous insistez un petit peu. Des grandes femmes comme Simone de Beauvoir, par exemple, dans Le Deuxième Sexe, finalement évacue l'ancien régime en disant que voilà, il n'y avait pas de grandes œuvres de femmes, etc., etc. Donc ça a participé aussi d'une manière totalement différente, mais enfin de cet effacement, Jennifer Tamas.
Moi, c'est ce qui m'avait un petit peu étonnée avec Simone de Beauvoir, parce que quand même, Le Deuxième Sexe, c'est vraiment un livre capital et on y apprend énormément de choses. Elle fait l'effort, en fait, d'aller s'enfermer à la BN et d'aller tout lire, et elle retrace pendant plusieurs pages tout cet héritage classique des femmes, et elle dit, enfin, c'est paradoxal, jamais les femmes ne furent aussi libres qu'au XVIIe, elles ont beaucoup produit, etc. Et en même temps, enfin, et c'est là que je trouve qu'il y a vraiment un imaginaire masculin qui colonise notre perception de la littérature, elle dit il n'y aura jamais l'équivalent d'un Shakespeare ou d'un Dante, et il n'y a pas de génie littéraire au féminin, c'est pas possible. Et c'est très intéressant parce que, en fait, quand on lit Sévigné, quand on lit Scudéry, quand on en lit plein d'autres, Christine de Pizan, c'est pas possible de pas penser qu'il n'y a pas de génie littéraire et que, en plus, ces femmes ont une vraie influence. Enfin, quand je pense à Scudéry, elle a une influence démesurée sur Racine, sur, même sur La Fontaine, enfin, sur tous les grands, qu'on adule du grand siècle, du siècle classique. Donc, c'est très intéressant de montrer que les femmes peuvent aussi invisibiliser les femmes, de même que par exemple Madame le Prince de Beaumont a invisibilisé Madame de Villeneuve pour La Belle et la Bête, en disant dans sa préface que oui, il y a des contes qui ont été écrits par des femmes, mais c'est un petit peu léger et qu'en fait elle se situe plutôt par rapport à Perrault, parce que je pense qu'aussi on intériorise l'idée que pour être prise au sérieux, pour faire date, on doit se mesurer à des hommes et non pas à des femmes. Et donc c'est ce que disait Bourdieu en fait, que c'est un des acquis du patriarcat que de forcer les femmes à intérioriser ces mécanismes de compétition.
Alors si on regarde ce que vous proposez, vous dites lire autrement et adopter un point de vue féministe, changer notre perception des textes passés pour accepter leur valeur indépendamment des écrans masculins, lire autrement notre patrimoine culturel, mais aussi sortir de l'ombre un magnifique et enthousiasmant matrimoine. Et ça signifie, ça passe par un travail d'exhumation, de textes, d'héroïnes, dans une forme de ce qui pourrait apparaître comme dans une forme un peu impressionniste, mais je pense qu'elle est voulue. Andromaque, Bérénice, la princesse de Clèves, enfin, etc. Des textes de nature différente, des textes qu'on pourrait qualifier de classiques, mais aussi des textes qui participent plutôt d'une culture populaire, enfin voilà. Comment est-ce que vous avez embrassé ou délimité ce corpus textuel?
Alors, au début, j'avais pensé adopter un plan assez académique, c'est-à-dire dresser une forme de continuum sur les types de refus. C'est-à-dire un non exprimé clairement quand on a la position de le faire, qu'on est une princesse par exemple, ou le nom d'une femme du peuple qui n'a pas le même pouvoir, enfin un non qui a été pas entendu, un non qui a été transformé en oui. Et en fait, plus je travaillais cette typologie, plus je la trouvais obscure, enfin disons qu'elle était difficile à manipuler. Et donc au lieu de travailler en fonction des types de refus, je me suis dit qu'en fait ce serait plus judicieux de travailler par type de stéréotype. Et donc en fait le stéréotype de la femme délaissée qui pleure, et ben voilà, c'est Bérénice, c'est ce qu'on pense quand on pense à Bérénice. Le stéréotype de la mère sacrificielle, bah c'est Andromaque. Le stéréotype de la femme fatale qui est fatale pour l'homme alors qu'en réalité elle est fatale pour elle-même, bah c'est Hélène de Troie. Donc en fait, ça m'a intéressé aussi de travailler en fonction de stéréotypes pour déconstruire les stéréotypes. Parce que ce que je me dis, c'est que oui, c'est très important de changer les lois, de changer les droits, d'avoir vraiment une action politique. Mais en fait, ça suffit pas. Et c'est ce que nous a montré Black Lives Matter, par exemple. La ségrégation aux États-Unis, ça n'existe plus. Sauf que le préjugé de considérer qu'un homme noir peut être dangereux dès qu'il a une capuche et donc qu'on peut lui tirer dessus, c'est ancré dans les mentalités. Et donc, mon idée en tant que prof de lettres, parce que voilà, je suis pas activiste, je suis pas politicienne, mais ce que je peux faire à mon niveau, à ma mesure, c'est essayer de déconstruire les stéréotypes, parce que c'est peut-être ça qui peut changer la façon dont on vit ensemble, qui peut changer notre culture et qui peut changer nos interactions. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé.
Vous dites partir du présent pour remonter au passé, l'articulation présent-passé intéressante hein, chez vous. Vous dites une démarche inverse à celle qui domine dans les études littéraires à l'université. Actualiser la réception des textes classiques. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a un dialogue constamment dans votre livre entre le passé et le présent. Quand on, par exemple, s'intéresse à la princesse de Clèves, on va voir surgir Philippe Solers ou Nicolas Sarkozy. On se souvient de ces phrases définitives sur la princesse de Clèves. Et on sort des propos académiques classiques, mais c'est revendiqué d'une certaine manière de votre part, Jennifer Tamas.
Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ma méthodologie. D'abord, il y a le fait que je suis une exilée, enfin, je vis pas en France, donc j'enseigne aux États-Unis. Je peux pas enseigner de la même façon qu'on enseigne en France, c'est-à-dire j'ai pas le même bagage culturel que mes étudiants, mes étudiantes, on n'a pas le même socle de savoir. Ils ont pas eu une formation comme on peut l'avoir en France, des petites classes jusqu'à l'université avec des sorties scolaires quand on va voir une pièce de Molière, etc. Donc je suis obligée de raisonner par rapport à eux, par rapport à leur culture, par rapport à ce qu'ils connaissent. Et en général, ils connaissent une forme de pop culture. Et donc, souvent, mes cours, je les commence par une chanson actuelle et j'essaye de construire des ponts entre le passé et le présent pour essayer de les cueillir là où ils sont et les amener pour tenter des rapprochements a priori faux, mais utiles pour créer une forme d'empathie avec les matériaux que je veux introduire. Enfin, si vous voulez, c'est une espèce de méthodologie dérivée de ce que Nicole Lauro appelle l'anachronisme contrôlé, c'est-à-dire partir de l'affect pour déconstruire l'affect et montrer ce qui peut à la fois être proche de nous et loin de nous. Donc ça tient vraiment à la pédagogie et à ma situation d'énonciation, en fait. L'autre aspect, je pense que c'est aussi là le geste intellectuel que je voulais accomplir, c'est-à-dire sortir du regard masculin de ce que Yvan Jablonka appelle une forme d'académisme masculin. C'est-à-dire que finalement, à l'académisme masculin, il oppose une méthodologie féministe. C'est-à-dire que finalement, ces textes, on les connaît que sous un prisme. Et pour changer notre vision des textes, il faut casser le moule, il faut casser le prisme et essayer d'avoir un autre regard. Et ça, je suis obligée de partir, par exemple, du cinéma, de ce qui se passe actuellement, des débats, par exemple, Philippe Solers, Nicolas Sarkozy, etc. C'est puissance 10, c'est-à-dire montrer comment la culture ancienne est arrivée à nos jours, quelles traces elle laisse, comment elle influence les mentalités, pour essayer de remonter à cette culture et de la saisir autrement.
Vous êtes professeur agrégé de lettres, hein, oui. Vous êtes inscrite dans le moule français au départ.
Tout à fait.
Les États-Unis, pour vous, de ce point de vue-là, constituent une forme de libération?
C'est libératoire d'une part parce que on se dit que les étudiants, les étudiantes n'ont pas les préjugés que nous avons. Vous voyez comment on catégorise l'histoire littéraire en France. On dit le grand siècle, par exemple. Racine, Molière, tout ça, c'est la même chose pour eux que Balzac, par exemple, c'est un vieil homme blanc. Et donc, eux ont d'autres préjugés, ont d'autres prismes, c'est-à-dire que eux ou elles, ce qui compte, ce qui est pertinent pour leur savoir, c'est de distinguer les post-colonial studies de tout ce qui précède. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres préjugés, hein. Et donc, je raisonne par rapport à eux et elles pour leur montrer que finalement, ce qu'ils pensent être poussiéreux et non pertinent peut être finalement un réservoir d'idées, de scripts innovants aussi. Enfin voilà, quand on étudie Olympe de Gouges ou Louise Dupin qui revendique le port d'armes par exemple pour pas être violée. Enfin voilà, cette femme du XVIIIe siècle. Finalement, ça permet de bouger les lignes.
On voit très bien qu'à contrario, vous soulignez bien les spécificités, l'importance des contextes différents d'une autre, les contresens possibles. Toute la réflexion autour de la galanterie, par exemple. Hein.
Alors la galanterie, c'est une notion très complexe que j'esquisse à peine dans Au nom des femmes, et parce que ça me paraissait important de déconstruire un contresens quand on réduit la galanterie à juste la culture du viol. C'est pas possible. La galanterie, c'est une sorte de contre-pouvoir où les femmes interviennent dans les jeux de séduction, dans les jeux galants. Donc c'était déjà pour déplier ce préjugé. Alors j'ai pas développé, et ce sera l'objet d'un prochain ouvrage, mais l'idée, c'était de dire que finalement, la galanterie, c'est aussi historiquement marqué, ça n'a rien à voir avec ce qu'on en connaît aujourd'hui, et ça n'a rien à voir avec ce prisme masculin qu'on a de la galanterie, qui est une vision parcellaire de la galanterie, puisque par exemple, la femme galante, pour Scudéry, c'est Sapho, Sappho, qui, selon elle, est une forme de perfection féminine qui refuse le sexe, qui refuse le mariage, donc qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut dire de la galanterie. Donc, c'était l'idée de faire surgir la notion d'une galanterie plurielle et complexe.
Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Jennifer Tamas, autrice aux éditions du Seuil, d'un ouvrage intitulé « Au nom des femmes, libérer nos classiques du regard masculin ». Alors, dans la deuxième partie de notre émission, on peut revenir, au gré des pages de votre ouvrage, sur quelques textes, quelques figures que vous retravaillez, qu'on redécouvre avec vous, avec beaucoup de joie. C'est le cas du petit chaperon rouge dans les contes de Charles Perrault, une histoire finalement assez terrible où une grand-mère et sa petite-fille sont dévorées par un loup. On connaît certainement, Jennifer Tamas, peut-être d'autres versions qui sont moins dures que la version initiale où tout se termine très mal, notamment la version des frères Grimm. Et vous exhumez pour le coup une autre version, celle du petit chaperon rouge dans la version du Nivernais, dans une version recueillie par le folkloriste Achille Millien en 1885, qui suggère ici un geste d'émancipation trouble mais profond, dites-vous.
Oui, donc la version du Nivernais, je l'ai découverte grâce à Yvonne Verdier dans « Façon de faire et façon de dire ». Ça répondait à des angoisses que moi-même j'avais eues enfant. C'est-à-dire que je ne comprenais pas comment une maman pouvait envoyer dans la forêt une petite fille tout en sachant qu'il y avait danger. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y a un élément laitier et un élément qui matérialise la capacité des femmes à cuisiner quelque chose. Donc, soit c'est un petit pot de beurre, soit c'est un petit pot de lait. Et le but, c'est de cheminer vers la grand-mère, mais sans avertissement. Tandis que chez Grimm, il y a vraiment un avertissement. Et donc, c'était comment ça se fait que, au fur et à mesure, ça devient vraiment un conte d'avertissement, sachant que chez Perrault, l'avertissement intervient dans la morale. Et donc, dans le Nivernais, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, ce n'est pas du tout un conte d'avertissement, c'est un conte initiatique, un conte de transmission, où on va voir trois générations de femmes travailler ce secret de la procréation. Et à ce moment-là, le loup devient un objet de savoir, il est instrumentalisé pour comprendre comment fonctionne la procréation. Et ce qui est très fort dans cette version du Nivernais, c'est que on progresse de la cuisine de la maman qui, en gros, il y a le four, on cuit la pâte, on laisse la pâte lever, on en fait un gâteau, etc. Et on va progresser vers l'origine de la farine, qui est le grain de blé, et donc le moulin. Et donc, en fait, c'est ça, c'est l'itinéraire dans la forêt, c'est pour remonter vers la maison de la grand-mère qui est située à côté du moulin, et c'est comme un voyage initiatique pour comprendre le processus de la création. Et donc, dans cette version du Nivernais, il n'y a pas de bûcheron, il n'y a pas de chasseur, il y a cette jeune fille qui parle au loup dans la forêt. Le loup ne la mange pas, c'est très intéressant qu'il ne la mange pas dans la forêt, il aurait très bien pu la dévorer dans la forêt. Par contre, il va aller dans la maison de la grand-mère, dévorer la grand-mère et garder un peu de sang et la chair de la grand-mère. Et quand la jeune fille va rentrer dans la maison de la grand-mère, elle devra ingérer le sang et elle devra faire cuire sa grand-mère, faire une fricassée. Donc ça, on le retrouve dans plusieurs autres versions. Et donc cette version un peu cannibale de ingérer la grand-mère, c'est une façon symbolique de comprendre comment on absorbe le savoir de la femme savante, de la femme ménopausée, de la femme qui ne peut plus produire d'enfants. Et ce qui est intéressant dans la version du Nivernais, c'est comment le loup va vouloir décliner... Donc c'est la jeune fille qui va décliner le corps du loup, que tu as de grands yeux, etc. Donc on a tout ce rituel qu'on connaît par cœur quand on est enfant. Et au moment où le loup va vouloir absorber le chaperon rouge, elle va avoir une feinte et dire qu'elle a besoin de faire ses besoins. Et le loup lui dit « fais-les dans le lit, fais-les dans le lit ». Mais elle dit « non, j'ai vraiment besoin de sortir du lit ». Donc c'est vraiment cette dissociation entre la sexualité, la propreté, sexualité, défécation, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est exploré dans le conte. Donc le loup va lui attacher une ficelle. Elle va sortir de la maison et en fait elle va couper le cordon, enfin elle va couper cette ficelle. D'ailleurs il y a un seau d'eau qui va tomber, donc on peut voir ça comme une seconde naissance parce qu'elle a acquis le savoir qu'elle voulait connaître et elle va se délivrer seule sans l'intervention ni de bûcheron ni de chasseur. Elle va pas être mangée par le loup et elle va connaître ce savoir de la procréation. Et donc on voit vraiment comment c'est une quête pour la jeune fille qui part de la cuisine de sa mère et qui va atterrir à la maison de sa grand-mère et qu'elle va connaître quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, en fait, soit c'est un conte de transmission entre femmes et l'homme est juste un objet du savoir et une instrumentalisation du savoir, soit chez Perrault, puis chez les frères Grimm, c'est l'histoire d'une petite fille désobéissante qui est punie et qui est rappelée à l'ordre et ça devient un conte d'avertissement, mais on n'a pas du tout... C'est pas du tout le même enjeu.
Parce que dans la version du Nivernais, ce qui vous intéresse, c'est que ça suggère une agentivité, une puissante agentivité d'une jeune fille, quoi. C'est ça qui est passionnant.
Et qu'elle n'est pas destinée à être dévorée, que la femme n'est pas destinée à être toujours porteuse du péché d'Ève, c'est-à-dire la désobéissante, la transgression, etc. C'est autre chose qui se joue, c'est le savoir des femmes. Vous voyez bien, il y a le savoir, savoir cuisinier. Yvonne Verdier dit bien, il y a ce savoir aussi des lingères, des lavandières, le rapport à la propreté. Il y a toute une symbolique de l'eau aussi. C'est autre chose, en fait.
Comment interpréter dans cette mesure-là la toute fin de la version du Nivernais, hein. Je la lis pour nos auditeurs, nos auditrices. Quand il se rendit compte que personne ne lui répondait, il s'agit du loup, du loup-garou, du bzou, il se jeta à bas du lit et vit que la petite était sauvée. Il la poursuivit, mais il arriva à sa maison juste au moment où elle entrait. Elle revient chez sa maman, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Bah, elle revient avec... ce savoir, elle n'est plus la même. C'est un peu, voilà, vous retournez chez vos parents après être partie et vous n'êtes plus le même. Et justement, elle lui ferme la porte au nez.
Ces relectures, on peut aussi les faire pour, voilà, La Belle au bois dormant, par exemple. Alors ça, c'est passionnant, parce qu'on voit bien l'immense décalage qu'il y a entre nos représentations et souvent... C'est ainsi que les choses sont faites. On se souvient plus de la production de Disney que de la lecture de Perrault. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on a oublié d'une certaine manière la deuxième partie du texte de La Belle au bois dormant, le conte de Perrault. Il y a une première partie qui est assez bien connue. La Belle au bois dormant est endormie pendant 100 ans. Arrive un prince qui la sauve, qui ne l'embrasse pas chez Perrault.
Non.
Qui est juste à genoux devant elle. Et nous, on a ce souvenir de ce baiser qui nous marque parce que c'est encore un souvenir audiovisuel. Mais il y a toute la deuxième partie, Jennifer Tamas, qu'on a complètement oubliée ou qu'on connaît très mal.
Alors, chez Perrault, c'est vrai que la deuxième partie... C'est un peu vrai aussi dans La Belle et la Bête de Villeneuve, on va plus s'intéresser aux origines familiales. Et donc on va comprendre que le prince de La Belle au bois dormant, en fait, il a des parents, dont une mère qui est une ogresse. Il va aller vivre dans la forêt avec la princesse Aurore, faire des bébés, un garçon, une fille, sauf qu'il ne va jamais l'avouer à ses parents. C'est vraiment l'incapacité à dire de la part du prince... qu'il est devenu père, qu'il est devenu mari, voilà, qu'il n'ose pas affronter sa propre mère, qui est l'ogresse, et qu'il, justement, attend la mort de son père pour le remplacer, puis parler à sa mère. Et finalement, en fait, on voit que c'est un prince assez faible, puisqu'en fait, il se réfugie dans cette forêt, puis il va partir à la guerre et laisser sa jeune épouse avec sa propre mère, l'ogresse, qui va vouloir tuer et l'épouse et les enfants. Et donc il y a toute une opposition entre la princesse Aurore et sa belle-mère qui va être dépliée dans la deuxième partie du conte.
dans la production de Disney, on a plutôt l'image d'un homme vaillant, etc. Oui. Et alors que là, ce prince, il est un peu couard, enfin.
C'est
voilà.
Ça, il est couard, il est falot, il n'ose pas affronter sa mère. On voit bien que sa mère a toute puissance sur lui. Et c'est très intéressant parce que finalement, la fin du conte, il revient de la guerre au moment précisément où sa mère, l'ogresse, a préparé une marmite avec plusieurs créatures abjectes, des serpents, etc. Dans l'idée de mettre dans cette marmite à cuire sa bru et ses deux petits-enfants. Et finalement, elle ne le fait pas, non pas parce que le prince vient lui demander des comptes ou se battre avec elle ou sauver sa famille, mais simplement parce qu'il pose un regard sur elle. Ce que Perrault nous dit, c'est que l'ogresse ne supporte pas la façon dont elle est vue par son propre fils. Et finalement, elle va se suicider devant lui.
Alors, on peut lire juste cet extrait, parce qu'il y a des termes du XVIIe siècle avec leur sens fort, hein, notamment étonné. Hein, étonné, oui. C'est très fort au XVIIe siècle. Il était venu en poste et demanda tout étonné ce que voulait dire cet horrible spectacle. Personne n'osait l'en instruire quand l'ogresse, enragée de voir ce qu'elle voyait, se jeta elle-même la tête la première dans la cuve et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu'elle y avait fait mettre. Le roi ne laissa pas d'en être fâché, elle était sa mère, mais il s'en consola bientôt avec sa belle femme et ses enfants.
Je suis toujours stupéfiée par cette fin. Ça rejoue avec des images mythologiques, on peut penser à la Gorgone, à Méduse, etc. Mais cette ogresse, on en trouve des motifs folkloriques, vous savez, des mères qui n'arrivent pas à laisser grandir leurs enfants. Par exemple, le roi serpent, le roi porc, qui doivent se dévêtir de leur peau de porc, de leur peau de serpent, parce qu'ils n'arrivent pas... Enfin, c'est Karine Mazel qui dit qu'ils n'arrivent pas à grandir en dehors de la matrice féminine. Ce chaudron, on peut aussi le voir comme une forme de matrice, et finalement, c'est elle-même qui retourne dans cette matrice. Ça montre comment le petit garçon n'arrive pas à sortir de la matrice de sa mère. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à lui présenter sa propre femme, etc., et que finalement, il faut que l'un des deux meure.
Alors, cet écart qu'il y a entre la production audiovisuelle et le texte ou les textes de l'époque moderne, on le voit encore dans La Belle et la Bête, un conte imaginé par Madame de Villeneuve. Là, on est en 1740, hein, sous le règne de Louis XV. Et là encore, il y a un immense écart avec les adaptations faites par Disney, par Cocteau, par Gantz, vous le montrez très bien. Ce conte n'est pas un récit de captivité. C'est une réflexion, dites-vous, sur le pouvoir de dire non. Alors, vous dites à un moment, c'est des phrases très fortes, hein, on retrouve votre style vif, là, alerte. Que figure donc ce château de la bête, où l'on se rend volontairement, d'où l'on part sans contrainte, où l'on peut rêver ses désirs sexuels sans les matérialiser, et dans lequel celui qui nous attend risque de mourir, dût-on choisir de ne jamais revenir? N'est-ce pas là une parfaite métaphore du consentement? Madame de Villeneuve offre la fiction d'un consentement éclairé, dites-vous.
Souvent dans les films, que ce soit Cocteau, Gans, Disney, les films jouent, je pense, sur un autre motif des contes de fées qui est la chambre interdite. Donc souvent on montre les châteaux avec l'aile ouest où on ne peut pas aller, le dehors du château comme une forêt interdite avec des loups prêts à dévorer Belle, et donc comme un lieu de tous les dangers. Or ce que nous montre Madame de Villeneuve dans son conte, c'est que non seulement le château n'est pas un lieu de tous les dangers, mais c'est un lieu de culture, là où la jeune fille va apprendre à se comprendre elle-même, donc il y a toute une part de rêve érotique. C'est aussi un lieu où elle va assister à l'opéra, au spectacle, à des ambassades politiques. Il y a une très grande clarté, une lumière, une liberté de circuler, puisqu'à un moment elle dit « bah je vais m'en aller », dehors comme dedans. Donc ça n'a rien à voir avec une pièce interdite, c'est aussi même un endroit de promotion sociale, puisqu'elle passe du statut d'une forme de bourgeoisie déchue, puisque son père a tout perdu, de la campagne à un lieu seigneurial, un lieu de culture, un lieu d'élégance et d'importance et de conversation. Elle a des conversations avec son amoureux pendant ses rêves érotiques, un prince incroyable, et elle a des conversations avec la bête à chaque dîner dans la vie de tous les jours. Donc, c'est ça qui m'intéressait, c'est de voir à quel point il y a une différence entre ce qui est décrit dans le conte littéraire de 1740 et ce qui est montré dans les représentations.
Alors, on peut terminer, si vous voulez, par une lecture d'une courte citation de La Belle et la Bête par Madame de Villeneuve. La bête lui demanda sans détour si elle voulait la laisser coucher avec elle. À cette demande imprévue, ses craintes se renouvelèrent et poussant un cri terrible, elle ne put s'empêcher de dire « Ah ciel, je suis perdue !»« Nullement, reprit tranquillement la bête, mais sans vous effrayer, répondez comme il faut. Dites précisément oui ou non. » La belle lui répondit en tremblant « Non, la bête. Eh bien, puisque vous ne voulez pas, répartit le monstre docile, je m'en vais. Bonsoir la belle. Bonsoir la bête, dit avec une grande satisfaction cette fille effrayée. Extrêmement contente de n'avoir pas de violence à craindre, elle se coucha tranquillement et s'endormit. Aussitôt son cher inconnu revint à son esprit. Donc c'est magnifique, son inconnu, oui. C'est ses rêves érotiques, etc. Enfin voilà, là c'est vraiment la métaphore du consentement, comme vous disiez.
C'est ça, et puis pour moi, c'est vraiment l'apprentissage à dire non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone grise, c'est oui ou c'est non. Et c'est pas seulement savoir dire non et répéter son non, c'est aussi, on voit la réaction de la bête, savoir accepter le non sans ressentiment. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est déplié au sein du conte pour montrer qu'en fait, ce couple qui vit de manière marital, finalement, ne va pas consommer l'union et va vouloir explorer d'autres façons de vivre ensemble, qui est la conversation, le compte-rendu des journées. La bête lui demande chaque jour, alors, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Est-ce que tu es heureuse? D'avoir des conversations pour comprendre ce que chacun et chacune vit. Et de penser finalement que voilà, le mariage peut être autrement. C'est une sorte d'allégorie ou de réflexion philosophique, en fait, comme on peut voir chez Voltaire les contes philosophiques. Comment on peut essayer de penser l'union autrement que celle qui est destinée aux jeunes filles, à savoir le viol le soir de la nuit de noces.
Ultime question peut-être habituelle dans nos chemins, vous nous l'avez dit, donc si on comprend bien vos chemins là de chercheuse, on sent qu'il y a un travail sur la galanterie qui se prépare, c'est ça, vos chemins pour les semaines, pour les mois qui viennent?
Oui, alors j'aimerais bien justement revenir sur cette question de la galanterie pour essayer de comprendre comment ça se fait, qu'elle est objet de tant de débats aujourd'hui, pourquoi elle est problématique, et montrer en réalité qu'en fait elle a toujours été problématique, et revenir sur les débats d'origine et comment cette figure culturelle ou peut-être ce fétiche culturel s'est construit à travers les temps, et ce sera un petit ouvrage qui paraîtra à l'automne.
Très bien, l'histoire continue. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine le 187e numéro de Nos Chemins d'Histoire, le 28e de la 5e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Jennifer Tamas, Associate Professor à Rutgers University, autrice d'un livre paru au Seuil et intitulé « Au nom des femmes, libérer nos classiques du regard masculin » et d'un autre ouvrage publié chez La Martinière Jeunesse et intitulé « Faut-il en finir avec les contes de fées ?» Toutes nos émissions sont disponibles sur les plateformes de podcast et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous.